un peu comme Marie, dimanche dernier, Marie, avec sa parole, mon âme magnifie, exalte le Seigneur, ce béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de Zacharie, ben, je trouve qu'il a rien de renversant à la première lecture. Pourtant, c'est des paroles qui sont devenues très importantes. On trouve ça un peu partout dans la Bible. Eh bien, sœurs et frères, je crois que cette parole, toute simple, « Béni soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël », je crois que cette parole dit tout sur l'identité du Dieu qui vient à Noël, en Jésus le Christ. Et on va essayer de mener cette enquête ce matin. Quand Zacharie dit que le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu d'un peuple particulier, un Dieu national même, finalement. Quand il dit que le Dieu d'Israël s'appelle aussi le Seigneur, eh bien, il nous donne des clés. Des clés pour percer un mystère. Et il nous faut la Bible à la main pour le percer, ce mystère. Le mystère de l'identité du Dieu de la Bible. Rien que ça. Quand Zacharie prononce le mot « Seigneur », il ne le fait pas en grec, il le fait en hébreu. La Bible, avant d'être écrite, elle est d'abord orale. Et que dit-il alors en hébreu quand le texte écrit « Seigneur » Eh bien, il dit « Yahvé ». Sauf que, quand on est juif, on ne prononce pas ce nom-là. C'est un peu compliqué, mais c'est la réalité. Alors qu'a-t-il dit en hébreu à la place du nom? Eh bien, on va mener l'enquête sur les noms de Dieu. Parce que dans la Bible, Dieu a deux noms principaux. Le premier nom de Dieu, c'est Dieu. Je vous montre un petit tableau, hein. Voilà. Dieu, El en hébreu, ou Elohim, c'est assez connu. C'est le nom commun, en fait, à toutes les divinités païennes de l'Antiquité. El, Elohim. Elohim, c'est juste le pluriel de El en hébreu. Mais Dieu se donne un... Alors, vous voyez, il y a des composantes. El Shaddai, El Kana, El Olam. C'est toujours Dieu avec un attribut, avec quelque chose qui le caractérise. Mais Dieu se donne un autre nom, un nom qu'il révèle à Moïse dans un événement fondateur que le livre de l'Exode, au chapitre 3, nous raconte et que j'aimerais vous lire. C'est l'épisode du buisson ardent. Alors, je ne l'ai pas mis. Vous l'écoutez, s'il vous plaît. Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et il arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé, pourquoi donc? Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors, Dieu l'appelle du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répond, « Je suis là. » Le Seigneur dit, « N'approche pas du buisson. Enlève tes sandales parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu. » Là, c'est Elohim. « Je suis le Dieu de tes ancêtres. » Le Elohim d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Moïse va se cacher le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Puis Dieu va dire à Moïse un certain nombre de choses qu'il va devoir aller libérer son peuple, qui est opprimé là-bas en Égypte. je continue la lecture. Dieu dit à Moïse, bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, c'est Moïse qui parle à Dieu, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre ? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Voilà ce que tu répondras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle l'Éternel, Yahvé, dans l'hébreu. Il est le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le nom par lequel vous pourrez faire appel à moi de génération en génération. Jusqu'ici, la lecture d'Exode 3. Dieu révèle donc à Moïse un nom nouveau, un nom en trois lettres hébraïques. Yahvé, qui veut dire, quand on traduit en français, plusieurs choses, je suis, je serai, et même j'étais. Ça couvre toutes les durées du passé, du présent, du futur. Et ce que la traduction Louis II, une ancienne traduction, a traduit, a rendu avec une inspiration de génie en traduisant Yahvé par l'Éternel, qui dit en fait ces trois dimensions en un seul mot. Ce n'est pas facile à faire. Alors, les Juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu qu'ils considèrent comme sacré. Et alors, ils ont pris l'habitude de dire à la place, quand ils voient écrit Yahvé, ils ont pris l'habitude de dire l'Éternel ou le Seigneur. Ou même de façon plus neutre, ils disent le nom. Et quand Zacharie dit que le Dieu d'Israël, c'est le Seigneur, il ne dit pas Yahvé, bien sûr. Il dit en hébreu Adon ou Adonai. Mais il confesse, sans le nommer, sa foi en Yahvé, l'Éternel. Ça va pour ce petit topo des noms de Dieu ? Alors, qui est l'Éternel dans la Bible ? On continue notre enquête. Premièrement, la toute première chose qu'on peut dire sur ce qui caractérise l'Éternel, c'est que c'est un Dieu qui libère. Yahvé, c'est le Dieu qui rend libre. Le Dieu de la grâce, le Dieu du pardon. Le Dieu d'amour, finalement, comme nous, les chrétiens, avons coutume de le dire. Et cet épisode du buisson brûlant nous apprend beaucoup de choses, en fait, sur l'identité de Yahvé. D'abord, Moïse voit une lumière. Il ne voit pas de fumée. On dit toujours en français qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ici, la nouveauté du Dieu de la Bible, c'est qu'il y a du feu, mais sans fumée. Dieu est celui dont la présence est premièrement lumineuse. Elle chasse l'obscurité. Il est à la fois lumière et chaleur. Et puis, il y a un détail peut-être que vous avez peut-être pas remarqué tout de suite à la lecture, c'est que, et je crois que ce détail est très important, c'est que le buisson ne brûle pas. Si, vous l'avez remarqué, parce que par deux fois, c'est dit. Hein. Le feu de Dieu est un peu différent des feux que nous connaissons. Parce qu'il fait de la lumière, il produit de la chaleur, mais il ne dévore pas. Il ne carbonise pas le buisson. C'est un feu positif. Un feu qui ne se nourrit pas de la destruction. Il ne se nourrit pas de ce qu'il brûle. Il n'a pas besoin de détruire et de dévorer pour manifester sa présence. Yahvé, l'Éternel, est donc le Dieu qui ne détruit pas le pécheur. mais qui l'éclaire et qui le réchauffe, qui lui parle et qui le sauve. Et c'est d'ailleurs la première chose que Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple. » Il ne lui dit pas « J'ai vu le mal que les Égyptiens font aux Hébreux. » Il dit « J'ai vu la souffrance des opprimés. » Ce n'est pas le même angle, ce n'est pas le même regard. Le Dieu de la Bible est d'abord le Dieu qui ressent notre souffrance, notre oppression, et non celui qui veut en découdre, qui juge et qui punit. L'Éternel, c'est le Dieu proche, qui ne supporte pas de voir souffrir les gens. Et quand Zacharie s'adresse à Dieu en l'appelant « Seigneur », autrement dit « Éternel », Yahweh, c'est tout ce message de libération qui défile dans sa tête. Zacharie croit au Dieu de la grâce et du salut. Et il le bénit. L'histoire biblique nous montre aussi comment Dieu s'y prend pour sortir nos vies de la misère. Parce que finalement, qu'est-ce qui empêchait Dieu d'aller lui-même libérer Israël de l'esclavage ? Rien. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il envoie quelqu'un. Il va chercher un petit berger dans le désert pour faire le boulot. Voilà. Dieu ne s'impose pas du haut du ciel. Il fabrique l'histoire de notre salut avec nous. Et ce n'est pas pour rien que la prophétie appellera l'enfant à naître Emmanuel, qui veut dire en hébreu « Dieu avec nous ». À Noël, par l'enfant Jésus, l'Éternel entre dans notre humanité comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Après Moïse, le berger libérateur d'Israël, voilà maintenant l'enfant berger, le nouveau Moïse, qui vient libérer et conduire au salut, non pas un peuple, mais tous les peuples de la terre, toute l'humanité. Si vous lisez bien l'Évangile et même toute la Bible, vous n'y rencontrerez que des histoires de libération. Jésus libère hommes et femmes de leurs chaînes. Vous avez peur de l'avenir ? Vous avez peur de voir survenir le malheur ? En écoutant les chaînes d'infos en continu ? Le catastrophisme, le déclinisme vous parlent ? Eh bien, Jésus vous arrache à cette peur de la vie et vous dit « La paix avec toi ». Vous avez peur de succomber à la tentation ? Eh bien, Jésus ne vous abandonne pas sur ce chemin, il vous accompagne. C'est un chemin glissant. Il l'a vécu lui-même. Et il vous libère de cette illusion qui consiste à croire que céder à la tentation, ce serait finalement accéder au bonheur. Ben non. Mais si vous chutez, Jésus vous libère de la culpabilité qui s'ajoute au péché, comme une sorte de double peine. Il nous relève de la chute. Et il nous libère de tout, des illusions, des maladies et même de la mort. Le Dieu de Zacharie, c'est bien l'Éternel qui libère. Et toute la prière de Zacharie va développer cette bonne nouvelle. Mais Dieu n'est pas simplement un libérateur qui viendrait nous débarrasser de nos chaînes et qui nous dirait « Allez, mon petit, ma petite, voilà, maintenant, fais ta vie, t'es libre, va, fais ce que tu veux, vis ta vie. » Zacharie nous dit que Dieu visite son peuple. Dieu ne reste pas dans son ciel, indifférent à ce que nous allons devenir. L'Éternel, c'est le Dieu qui vient et qui nous visite. Moi, j'aime tellement ce mot « visiter ». On en parlait, je crois, jeudi dernier, dans l'étude biblique. Dans la langue hébraïque, ce mot « visiter » est très riche. Il veut dire à la fois « accompagner », »,« guider ». Mais en grec, dans le texte que nous avons là, c'est un peu moins joli. « Visiter », ça se dit « surveiller ». Et ça a donné « évêque » aussi, en français. « Épiscope ». Ce qui n'est pas du tout la même chose. Dieu nous envoie pas, ne nous envoie pas à Noël un espion, en la personne de Jésus, qui va lui faire des rapports sur tout ce que nous sommes en train de faire. Il nous envoie un sauveur par lequel il manifeste sa bienveillance, son amour infini pour chacun d'entre nous. Et on pourrait aller encore plus loin dans notre enquête sur l'identité du Dieu de Zacharie, parce que le verset suivant affirme ceci: Dieu a suscité une force de salut. Suscité. C'est le mot qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler de la résurrection. Ce qui était important de rappeler ce matin, c'est qu'à Noël, retenez ces trois verbes. Dieu nous libère, Dieu nous visite et Dieu nous ressuscite. Ça vous va comme programme ? De Noël, par sa lumière, il chasse nos peurs, il ouvre nos tombeaux et nous accompagne sur un nouveau chemin de vie qui est lumineux. Frères et sœurs, nous avons une chance incomparable de recevoir dans nos vies la visite du Dieu de la grâce et du salut. Jean-Baptiste, Marie, Zacharie ont été nos témoins sur ce chemin de l'Avent, ce quatrième dimanche aujourd'hui. Ils invitent ces trois personnages, ils invitent nos communautés réunies pour ce culte particulier, ils les invitent à entrer ensemble dans la joie de Noël, à saluer la visite du Dieu qui libère, qui vient en ce petit enfant pour offrir à notre monde le salut. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël et le Dieu de chacun. Amen.